deuxième heure de l'after, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, comme tous les lundis, nous accueillons nos drôles de dames. Le foot européen, c'est parti pendant une heure avec, par ordre d'apparition, David Lorto. Salut David.
Allô Freud, salut Jean-Louis, salut à tous.
Philippe Auclair en Angleterre, salut Philippe.
Ah, il est pas là.
Que fait Philippe? Il arrive, hop, il branche son micro. Non, il va arriver. Fred Hermel en Espagne, salut Fred.
Hola chicos.
Simone Rovera pour l'Italie, salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Les amis, vous aurez tous noté que nous sommes sponsorisés désormais par l'école Sikaflex. L'after et l'école Sikaflex.
Oui, mais pourquoi tu le redis?
C'est vrai? Bah parce que je sais pas, je trouve que c'est marrant qu'on ait un sponsor. J'avais jamais
c'est
entendu.
Bon, c'est l'école Sikaflex. Comment on dit?
L'after présenté par l'école Sikaflex.
Ah, c'est bien ça.
C'est beau ça.
Voilà. Faut que je trouve un truc.
Et alors, c'est quoi Sikaflex?
Bah, je sais pas, c'est des cols.
Bah, de la colle,
ouais. C'est de la colle. Sûrement. Oui, c'est oui, la colle commande, la colle super pure là que.
Exactement. Pour, non, mais c'était juste.
Des trucs que tu te tu mets les pieds au plafond et tout ça, quoi.
Ouais, voilà.
Un peu comme ça. C'est glu ça.
Oui, mais non, mais je le dis pas, c'est le concurrent.
Non, c'est concurrent. Non, mais c'est pas la colle Cléopâtre, on avait quand on était petit, blanche pour le. Tu sais, qui collait pas.
Ah non, pas... non.
Enfin, non, Jean-Louis, trop jeune.
Oui, c'est ta génération.
Que...
Moi, j'avais de la colle UHU, qui était excellente.
Ouais, c'était. Ah, oui,
c'était
ouais,
c'est
ça sentait bon.
Il avait le score, il s'en mettait plein les nez, Fred.
Qui a dit fou, là?
C'est
Philippe Auclair, il est là.
Absolument.
Salut Philippe.
C'est la restauration de la colle.
Non, mais moi, c'était juste pour dire que c'était une nouveauté, qu'on avait un vrai
c'est
sponsor.
Bien, bah, c'est cool d'avoir un sponsor.
Qu'on les salue. Vous savez qu'on réfléchit à faire un sponsor par drôle de dame aussi. Pour chaque avis tranché.
Ah, ça, ce serait rigolo.
Ah, moi, c'est facile. Durex.
Bravo.
On a un concurrent, hein. Je suis ouvert à tout.
Voilà. Pour David Lorto,
il faudrait faire un sponsor national.
Ah, bah, en plus, oui.
Enfin, voilà.
Il y a bien.
Un espagnol, un allemand.
Je pense qu'il y a bien une version espagnole de Durex. Mais il y a des Durex, je crois, d'ailleurs, même en Espagne.
Oui, en Espagne, ça existe, mais t'inquiète.
Ouais, mais tant que XXL, moi ça va.
Oh là, ça va.
C'est bien parce que. Non, mais c'est bien. T'avais pas été assez lourdeau sur la première. Il fallait mettre une deuxième.
Mais non, mais comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça passe.
Et alors, justement, à propos d'XXL, voilà. Il y a des supporters de Schalke. Vous savez qu'il y avait le derby ce week-end, Schalke-Dortmund. Des supporters de Schalke tellement fiers de la victoire de Schalke ce week-end qu'ils ont réclamé des maillots XXXL.
Tu vois?
Voilà, David nous ramène au moins quelque chose de plus terre à terre.
Mais en fait, là, j'ai pas compris.
On non plus!
On s'est débarrassé de Fred et ses gros machins.
Parce qu'il bombe le torse, Daniel. Il bombe le torse, donc ils ont besoin de maillot très grand.
Ah oui, d'accord.
Bah, les capotes ont compris mieux quand même.
Ça n'avait rien à voir avec ce que tu disais, Fred.
Non.
Quand même.
Bon. 4.
Alors écoute, David, pour saluer cette prise d'initiative, on va commencer par toi. Jingle, David,
on n'est pas coutume.
Allez. 12 balles pour vous. 12 balles pour vous. 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui sont vos complices?
La vie tranchée de David Lorto. Bah oui,
sponsorisé
David.
Par Volkswagen.
Bon, c'est classique ça.
Bah ouais, je sais pas.
Ça peut être. Tu voudrais quoi, David?
Par la Stoffler.
Par Bosch. Ouais.
Par la choucroute Stoffler.
Par les personnes.
Non,
Bosch.
Non, parce que c'est pas Wolfsburg qui est champion, mais le Bayern. Ah,
ah. Oui, c'est vrai. Vrai.
Elle est bien. Hein.
Bah, il me faut un sponsor bavarois.
Allianz.
Ouais.
Oh, ils sont du blé.
C'est pas très rigolo.
Ah, mieux quand même.
Allez-y sur le hashtag RMC
marque
Live.
Une marque de bière.
Trouvez
une marque
des sponsors.
De bière,
comme ça, on balance plein de marques à l'antenne. Moi, je me fais engueuler demain et tout. C'est génial. Allons-y jusqu'à minuit. On va se régaler.
Peut-être une on choisit à la fin, hein. Marque en plus, mais choisir une marque pour payer, c'est bien.
Ça peut marcher. Bon, alors David, il nous balance son avis tranché et il veut mettre le feu au drôle de dame en annonçant qui est le favori pour la Ligue des Champions.
Aïe.
Ah bah oui, parce que là, je crois que le contexte m'a imposé mon avis tranché aujourd'hui. Le Bayern est désormais le clair favori des quatre qui restent en Ligue des Champions.
Ah bon?
C'est oui, tu vas comprendre, Daniel.
D'accord.
C'est un ancien champion du monde, 1990, qui a gagné d'ailleurs cette Ligue des Champions avec le Real en 98. Je sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Le gardien de but Bodo Lindner, qui s'est exprimé face aux médias aujourd'hui. Et Bodo Lindner a dit, le Real Madrid, donc qui est son club de cœur, hein, qui est le club pour lequel il son cœur bat, Bodo Lindner, l'Allemand, champion du monde en 90, a dit, le Real est favori de cette compétition à partir du moment où la saison commence. Et cette phrase m'a fait penser à l'agacement de Daniel habituel lorsqu'on commence à parler des favoris, parce qu'effectivement c'est cliché, si le Real est favori en septembre, il l'est pas forcément en novembre, il l'est pas forcément en janvier, il l'est pas forcément en mars, etc. Ce qui me semble important dans le contexte d'aujourd'hui en ce qui concerne le Bayern, c'est tout un tas d'éléments, un faisceau d'éléments qui me permettent d'affirmer que c'est donc le Bayern qui est favori maintenant du dernier carré de la Ligue des Champions. Pourquoi ? Eh bien, il y a son entraîneur, Joep Heynckes, qui en est désormais à 1034 matchs comme entraîneur plus joueur disputé ou dirigé, 1034, ça vous place quand même la légende, qui a réussi depuis son retour en octobre 2017 ce qu'il avait réussi en 2013, c'est-à-dire à embarquer derrière lui toute une équipe, tout un staff évidemment, toute une équipe, tout un peuple aussi bavarois. Et le parallèle avec 2013 est quand même assez fascinant parce que tout le monde le suivait il y a 5 ans et tout le monde le suit à nouveau aujourd'hui. Alors c'est pas un unanimisme de façade, c'est pas une unanimité comme ça médiatique pour dire tout va bien au Bayern. Non, c'est une vraie réalité. Joep Heynckes s'y est pris de la façon suivante. Lorsque on est sorti de la dernière trêve internationale, qui est assez récente, l'entraîneur a réuni ses joueurs dans l'auditorium de l'Allianz Arena et il leur a dessiné au tableau, il a fait une liste des matchs qui restaient à jouer en théorie si le Bayern allait au bout de toutes les compétitions. Donc ils sont actuellement en demi-finale de coupe, ça joue demain contre le Bayern Leverkusen, ils sont en demi-finale maintenant de Ligue des Champions et il restait quelques matchs de championnat. Et par ce procédé très simple, il a, semble-t-il, emporté l'adhésion de ses joueurs à tel point qu'il y a eu une espèce de d'euphorie qui s'est emparée d'eux à ce moment-là, une espèce de moment important de la saison, très psychologique, très managérial, mais ça a fonctionné. Et je voudrais vous donner trois exemples simplement de joueurs que Joep Heynckes a redressé spectaculairement ou qu'il a spectaculairement remis sur les rails cette saison. Il y a Sven Ulreich, le gardien qui supplée Manuel Neuer, qui, alors qu'il était au fond du trou lorsque Carlo Ancelotti est parti, est redevenu un excellent gardien à tel point qu'on pense éventuellement à lui comme numéro 3 pour la Coupe du Monde, Sven Ulreich. Arjen Robben.
Donc Neuer va revenir aussi.
Oui, Neuer va revenir, il a repris l'entraînement, mais bon, en tout cas Ulreich réussit son...
Neuer. Il sera pas de retour pour le Real.
Ah non. Peut-être en mai, mais pas avant. Ulreich a réussi sa résurrection et il est redevenu le gardien crédible qu'il était lorsqu'il était dans ses clubs précédents. Arjen Robben, je disais, serait le premier à s'agacer et à maugréer auprès des médias s'il n'est pas titulaire à l'occasion d'un match. D'ailleurs, il a été à deux doigts de le faire récemment. Mais Joep Heynckes, auprès de Robben, comme il le fait avec tous les joueurs, a beaucoup parlé avec sa star néerlandaise. Et a convaincu aussi Robben de rentrer dans le rang quand c'était nécessaire, oui. Et d'accepter de disputer simplement des bouts de match. Et puis il y a un autre joueur qui est Thomas Müller. Alors on dit Müller, c'est un homme de tous les 4 ans, il se réveille pour la Coupe du Monde. Il était bon en 2010, il était bon en 2014, donc on dit bah il va être bon en 2018. Mais c'est pas si simple que ça. C'est simplement, je pense, la raison principale pour laquelle Müller est redevenu le grand Müller et le Müller qui fait peur à tout le monde, c'est simplement aussi parce que Joep Heynckes a su tenir le bon discours à cet homme-là. Voilà. Et puis il y a un autre élément qui me fait dire que le Bayern est aussi désormais le clair favori de cette Ligue des Champions.
Ça fait beaucoup, je pense que Daniel va être convaincu.
C'est que Arturo Vidal, qui est un joueur important et guerrier comme on le sait, est blessé. S'est blessé ce lundi à l'entraînement, ce dimanche pardon à l'entraînement.
Donc c'est une bonne nouvelle ça.
Parce que Vidal.
Moi je pensais qu'il disait qu'il avait arrêté un peu de.
Il rate un penalty l'année dernière contre le Real au match aller. Il est expulsé au match retour et ça pèse lourd dans la balance. Alors, je suis pas en train de dire que Vidal.
À Madrid, on se dit que finalement c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Real que Vidal soit pas là.
Ah oui, c'est en souvenir du match de l'an dernier. Alors évidemment, c'est un joueur essentiel dans le combat, sur le terrain lorsqu'il faut un peu se battre et tout. Mais ce que je veux dire par là, et j'en terminerai sur ce propos, c'est que le groupe du Bayern, l'infirmerie du Bayern est suffisamment peu remplie pour qu'on puisse éventuellement se passer d'un Vidal sur un match aller-retour contre le Real pour passer ce tour-là, pour aller en finale et pour rester le favori de la compétition, y compris en finale.
Alors, Daniel, est-ce que le Bayern
pourquoi pas, si tu me demandais, puisque vous parlez toujours de vos histoires de favoris, que sont que ça rappelle les bookmakers et donc l'oseille qu'il faut mettre sur un match, puisque c'est maintenant comme ça qu'on aime apprécier le foot, si je devais mettre 3 ronds, je mettrais plus côté Real, mais je les mettrais plus par la force de l'habitude, par l'idée que cette équipe a toujours tout qui tourne bien, qu'elle est tellement habituée à gagner qu'elle ne s'arrêtera jamais de gagner. Il va bien y avoir à un moment qu'elle tombe. On sait pas quand. Mais on se dit que ça arrivera. Sauf que comme on sait pas quand, on continue de penser qu'elle va gagner. Mais effectivement, quand David le dit,
et que cette équipe du Bayern, on en parlait tout à l'heure, vous n'étiez pas là, messieurs, mais à la différence du PSG, elle survole la Bundesliga, mais ça n'a pas réellement de conséquences sur sa compétitivité, en Europe, où elle arrive à se remobiliser, et où la force de ce club fait que, et d'ailleurs l'année dernière, ils avaient été un concurrent de très haute volée face au Real. Ça,
c'est le plus beau match que j'ai vu dans la saison.
Le Real ne s'était pas baladé. Et puis c'est un classique. En plus, c'est un classique de la Ligue des Champions sur ces dernières années.
Ah oui.
C'est le classique de toute façon. Real Bayern. Et d'ailleurs, moi d'ailleurs, je voulais pas que ce soit en finale, mais sur aller-retour, parce que sur aller-retour, c'est là que j'aime vraiment les confrontations. Et s'il y a une équipe qui effectivement sur un aller-retour, sur les équipes qui restaient, pouvait faire tomber le Real. C'est probablement le Bayern.
Pierre, t'es d'accord?
Je suis d'accord, oui.
Oui, comment ne pas être d'accord, sur le Bayern, alors, est-ce que c'est le favori? C'est compliqué aussi. Il y a le Real en face. Il y a le Real en face qui est très, très, très costaud. C'est compliqué. Honnêtement, j'aurais du mal aujourd'hui à dire oui, je suis d'accord avec David, c'est le favori. Pas forcément. Et puis là-dedans, t'as aussi ceux qui sont pas favoris comme Liverpool qui peuvent tuer tout le monde, quoi.
On va dire que les outsiders sont de l'autre côté.
Et oui. Alors après, si on peut dire par rapport à ce qu'on dit en Espagne, c'est vrai que c'est le grand classique, et c'est comme le classico, c'est le Real Barça, et le classique européen, c'est le Real Bayern. Il y a une vraie rivalité historique. Mais voilà, il y a des personnages comme Oliver Kahn par exemple qui font partie des bêtes noires du Real, des gens les détestaient au Real Madrid quoi dans l'histoire du football quoi. Donc Jupp Heynckes, faut pas oublier que il est entré dans l'histoire du Real pour avoir permis à cette équipe d'avoir gagné la Ligue des Champions après 32 ans de sécheresse.
Oui, en 98.
Attention parce que c'est Jupp Heynckes, moi j'écoutais avec attention ce que tu disais, et je te crois bien entendu David quand tu parles d'un coach qui réussit à fédérer tout le monde. Il a gagné avec des champions avec le Real, avec tout le vestiaire contre lui, il la gagne quand même. Donc après que ce soit non mais c'est vrai, c'est un super coach, personne ne va en douter. Bien sûr que du côté du Real Madrid, on considère que c'est le plus gros rival des quatre, mais d'un autre côté, on se dit aussi que le Real Madrid, avec tout le respect que j'ai bien entendu et qui est à Madrid pour la Roma, mon cher Simone, on se dit contre le Real il y aura pas de relâchement, et surtout après la peur qu'ils se sont fait contre la Juve, parce que parfois le Real peut avoir certains moments un petit relâchement quand le rival, c'est pas un manque de respect, mais voilà. Alors que contre le Bayern, c'est t'es concentré mais à 1000% tout le temps, quoi.
Alors puisqu'on est sur l'Allemagne, David, tu voulais nous parler de la polémique entre Francfort et le Bayern.
Oui, je vais y venir très très vite, Jean-Louis, mais il faut absolument, il y a un match ce soir et on est obligé de l'évoquer, vous allez voir, c'est un truc de dingue là qui s'est passé ce soir. Il y avait un match en bas de classement entre Mayence et Fribourg, la victoire de Mayence 2-0. Figurez-vous que la vidéo s'en est mêlée, je fais 10 secondes de récit là-dessus parce que c'est une dinguerie. La vidéo s'en est mêlée, on arrive à la fin de la première période de ce match, main dans la surface de Fribourg, l'arbitre laisse jouer et décide finalement de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Donc les joueurs commencent à se diriger vers le vestiaire, l'arbitre vidéo intervient et décide d'accorder le pénalty finalement à Mayence qui va être transformé derrière.
Et donc, finalement les sur joueurs le terrain.
Ressortent. Ouais. Voilà, exactement. C'est un truc qui rend les supporters fous évidemment, et surtout qui donne un argument ce soir à ceux qui sont un peu anti vidéo en Allemagne, et on sait que c'est très très partagé. Voilà, je voulais parler de ça parce que c'est
non mais me dis pas qu'ils étaient sortis du terrain, ils étaient en train d'aller, ils étaient dans le vestiaire, ils étaient encore sur la pelouse quand même.
Ah oui, il y a des joueurs qui étaient plus sur la pelouse.
Imaginons,
qui étaient déjà dans le couloir.
Imaginons au coup de sifflet final. Les mecs sont dans la douche et tout, tu les ressors pour aller retirer le penalty.
Tu ressors le gardien et le tireur.
Ouais, c'est vrai, remarque.
Après tout.
Ça prend pas autant de temps que les joueurs arrivent sous la douche.
Ils ont eu le temps déjà de
se mettre sous la douche.
Quand il s'agit de la justice du foot.
Bon, alors mon histoire Francfort là autour de Kovac.
Oui, bah bien sûr, parce que le futur entraîneur du Bayern, on le sait maintenant, ça va être le Croate Niko Kovac, et il y a eu une espèce d'explosion médiatique et populaire évidemment ce week-end autour de ça, parce que il y a deux versions qui s'opposent, et évidemment ça fait une espèce de crimi, comme on dit en Allemagne, une espèce de dramaturgie un peu dingue. D'un côté, la version de Francfort et le directeur sportif Freddy Bobic a été très très énervé ce week-end, c'est de dire on est venu nous piquer notre entraîneur sans nous prévenir, en plus à un moment de la saison où on joue un accès site à l'Europe. Et de l'autre côté, le Bayern qui dit Nous, on a fait les choses de façon tout à fait honnête et tout à fait professionnelle. Il est soupçonné que Niko Kovac, évidemment, ait rencontré les dirigeants du Bayern bien avant que les choses ne soient précisées à Francfort et ne soient officialisées. Et Uli Hoeneß, le président du Bayern, s'est perdu ce week-end dans une explication en disant que son chauffeur personnel était croate et que par hasard, par le biais de d'une fête organisée par celui-ci pour ses 60 ans, Uli Hoeneß avait rencontré Niko Kovac. Enfin bon, c'est une espèce de roman policier qui a été mis en place là, entre les deux parties. Évidemment, on s'envoie des piques par conférence de presse interposée. L'arrivée de Kovac au Bayern fait beaucoup de bruit et il est déjà évidemment critiqué pour avoir communiqué de façon un peu curieuse vis-à-vis de son propre club actuel, Eintracht Francfort, et vis-à-vis du public aussi en Allemagne. Ça fait beaucoup de bruit, cette histoire. Niko Kovac va arriver au Bayern, lesté d'une affaire médiatique déjà importante.
Et ben voilà, donc pour la polémique allemande racontée par David, en plus de l'histoire du pénalty à la mi-temps, donc à Mayence, qui nous a régalé. Dans un instant, la vie tranchée de Philippe Auclair, le foot anglais.
Sponsorisé par les chips Tyrol.
Oh, c'est bon ça.
Ah, elles sont bonnes. Ah oui.
C'est vrai qu'elles sont parce qu'elles sont pas trop salées.
C'est les meilleures.
Et en plus, elles sont très bien.
Et en plus, elles sont bonnes pour
pour la santé.
Oui, c'est vrai aussi.
Ah bon?
Oui,
salées.
Oui.
Je ne savais pas.
Les salées, hein, juste.
Non, mais les salées à cause du. Je sais, c'est pour les reins, c'est horrible.
Non, mais les Tyrols sont très bien.
Non, pour ça, les Tyrols sont très bien parce qu'elles sont pas trop salées.
Voilà, exactement. Donc, à l'étranger de Philippe Auclair. Oui, bah attends, quand même, Philippe, tu vas pas avoir le choix non plus.
Donc, t'as aimé mon sponsor. J'en ai un pour chacun de vous.
Ah, voilà.
Ah, cool.
Là, c'est pour nous dire, ah, j'ai bossé, les gars, hein, attention. Hein. Donc, Philippe Auclair, City est-il le plus beau champion qu'il ait vu? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, il est 23h21, on est avec nos drôles de dames. Après David Lorto, en attendant Simone Rovera, en attendant Fred Hermel, l'Angleterre jingle Auclair, sponsorisé donc par...
Les chips Tyrol.
On y va.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et Philippe, tu veux logiquement revenir sur le titre de Manchester City, acquis donc hier?
Absolument, et Manchester City qui a remis les pendules à l'heure, c'est moins qu'on puisse dire. Clou et bec de pas mal de gens qui ont dit un petit peu n'importe quoi après les trois défaites qu'on a vécues ensemble et qui ont fait cela à Manchester City de la manière la plus convaincante, la plus séduisante qui puisse être, en fournissant en fait peut-être leur meilleure performance de la saison, en championnat d'Angleterre en tout cas. Peut-être pas en Ligue des Champions, je pense contre Naples c'était encore mieux que ça. Mais on a vu une grande équipe de Manchester City, le réveil parfait, et je le dis sans craindre de, je vais essayer de me faire reprendre de voler, mais je suis le football anglais depuis un bon bout de temps, je n'ai jamais vu un champion qui produise un jeu aussi beau, aussi enthousiasmant. Que celui que nous a proposé Manchester City cette saison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont le plus grand champion de l'histoire du football anglais. C'est pas ça que je veux dire. Tu pourrais parler même dans
les invincibles d'Arsenal.
Les invincibles d'Arsenal, mais aussi l'équipe de Chelsea 2005-2006. La première ère Mourinho était une équipe formidable. L'équipe d'Alex Ferguson de la fin des années, toute fin des années 90 et surtout 2002-2003, c'était une très 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 belle équipe. Mais celle-là, il y a quelque chose de plus au niveau du jeu, parce que je pense en plus de ça que c'est une équipe qui va faire évoluer la façon qu'il a déjà fait évoluer la façon dont le football est pensé et joué en Angleterre. Il y a beaucoup d'idées reçues qui ont été mises à la poubelle. Souvenez-vous des réactions lorsque Guardiola avait terminé troisième du championnat d'Angleterre l'année dernière. Tout le monde disait ouais, il réussira jamais ce style, ça marchera jamais en Angleterre. Ben oui, ça marche et il fait le doublé. Coupe de la Ligue et championnat d'Angleterre. Et c'est une équipe encore très perfectible. C'est une équipe très jeune, une équipe qui peut progresser. Elle doit progresser pour aller plus loin en Europe, sans le moindre doute. Mais pour ce qui est déjà du jeu qui a été fourni et encore du jeu qu'on a vu contre Tottenham, c'est tout simplement magnifique. Et le faire avec une telle constance, de semaine en semaine, même dans les matchs que tu perds, pensez à la première mi-temps contre Manchester United, moi c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, même avec des invincibles d'Arsenal. T'imagines ce que ça me coûte sur lui pour dire une chose pareille. mais franchement, donc, c'est un magnifique champion qui a, encore une fois je dis, remis les pendules à l'heure et auquel on doit être très reconnaissant, quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir sur la façon dont ce club a été monté et dont il fonctionne, ça c'est autre chose. Pour ce qui est de l'équipe elle-même et du football, bravo messieurs et merci.
Pierre, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est difficile de
comparer les
époques, d'aller dans un sens ou dans l'autre par rapport à Philippe. Je vois s'il est mieux placé pour ça. Là,
ce que je lui aurais rétorqué de façon très simple, c'est justement les invincibles d'Arsenal. Mmh. Mais si lui-même, voilà, c'est son avis.
C'est au niveau de la régularité, parce que ouais, moi je me souviens des invincibles d'Arsenal, il y a des matchs où franchement c'était hallucinant, c'était magnifique.
Oui, oui, c'est ça.
Mais aussi des matchs, beaucoup de matchs où ils avaient beaucoup de mal. Et j'ai vu les 38 matchs cette saison-là. Oui. Et je me souviens aussi du fait que
c'était la première année où j'avais suivi le championnat d'Angleterre entièrement, parce qu'à TPS on avait acheté les droits cette année-là. D'ailleurs tu devais y être aussi, non? Il me semble. Et on avait en 2004, ouais.
Mm-hmm. Ouais, ouais, et t'avais pas loupé ta première saison, là, elle était pas mal. Mais on a oublié complètement le fait que cette équipe d'Arsenal invaincue, elle s'était aussi faite sortir en quart de finale par Chelsea en Ligue des Champions. Mm. Elle s'était aussi faite sortir par Manchester United en FA Cup. Elle avait pas été grandiose toute l'année. Mais c'est une équipe qui avait quelque chose d'extraordinaire quand tu regardes les individualités qu'il y avait.
Il s'agit pas City de dire qu'elle était plus forte ou moins forte. C'est une saison magnifique, en plus, avec le jeu qu'elle produit, avec Guardiola.
C'est le jeu dont je parle.
Moi, je peux difficilement être en désaccord avec toi, vu ce que j'aime. Moi, ce qui m'a...
On l'a dit toute la saison, voilà.
S'il faut juste sur la saison d'hier, tu vois. Franchement, mais, parce que le scénar du week-end, c'était bon, City gagne et Manchester United perd. Tu vois, ok, d'accord. Et ils jouent contre qui, United? Bah, ils jouent contre West Brom.
Les derniers.
Il dit, donc c'est pas possible, on peut être champion ce week-end, City.
Surtout qu'ils jouent à Tottenham.
Avec United, tout est possible.
Et il y en a, non, mais à la limite, allez, je me suis dit, bon, dans les deux trucs, ce qui me semblait le plus probable, presque, c'était que City allait gagner à Tottenham. Mm. Mais que l'autre, il perde contre West Brom. Mais c'est pas jamais de la vie, ça va arriver dès ce week-end. Et
alors, justement, ce match de Manchester United,
c'est quand même dingue, quoi.
Terrible. Ce match était, écoute, c'est...
Tu l'as commenté, Pierre? Ah oui, ça se voit à ta tête.
C'est hallucinant. Alors, avant de parler du match de Manchester United, juste sur le match du titre, parce qu'en face, le gardien, c'était Hugo Lloris. Mm. On peut ouvrir un débat, tu nous autorises ou pas?
Ouvrir le débat, ça serait dommage, on peut le faire une autre fois peut-être.
Non, mais même si...
On en a parlé avec...
Le fasse pas, mais est-ce que vu que toi, moi
écoute,
je
t'invite, Daniel,
écoute le
podcast de Tim Dugas, et tu verras que...
On en a parlé assez longuement.
Ça en fait pas un gros débat en Angleterre. C'est plus en France qu'en Angleterre.
Sur les performances d'Hugo Lloris.
J'aurais dû la pensée de Philippe.
C'est pour ça que je demandais l'autorisation à Philippe d'ouvrir le débat Hugo Lloris.
Non mais on s'écoutera le podcast ensemble après l'émission.
Donc j'ai pas besoin de... On peut ne pas l'ouvrir, alors ok.
On y reviendra, sans le moindre doute.
Donc Manchester United. Alors Pierre a fait une tête là quand j'ai parlé du match, ça ressemble au traumatisme.
en fait moi non, mais ce que j'ai aimé c'est West Brom. Mais enfin on va pas rouvrir le débat avec Daniel. Voilà le beau jeu, etc. Sauf que dans un match comme ça, pour se raccrocher à quelque chose, je me suis raccroché à la volonté, à l'état d'esprit de West Brom qui représentait quelque chose de plus que Manchester United, qui n'a strictement rien fait.
Ah mais ça c'est pas
et Pierre, c'est quand même
joué cette année, donc.
Non mais c'est extraordinaire comme cette équipe de Manchester United d'une semaine sur l'autre, parfois même dans le même match, nous offre des visages complètement différents. Ouais. On se souvient du match contre Liverpool, ils font une superbe première mi-temps, la deuxième c'est un peu plus compliqué. Contre Manchester City, ils font une seconde mi-temps qui est très très enlevée après une première qui était catastrophique. Là, ils sont catastrophiques de bout en bout contre la lanterne.
Ouais, là ils sont réguliers. Ouais.
Mais c'était épouvantable, mais tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Et on entend il y a des bruits qui circulent, et enfin des bruits, quand je dis c'est plus que des bruits, c'est des rumeurs qui circulent sur le fait que José Mourinho est très très clivé avec son vestiaire, et en fait qu'il n'y a que 6 ou 7 joueurs qu'il souhaiterait véritablement conserver.
Ça paraissait évident. Moi, la question, je te l'avais posée il y a quelques semaines, c'est comment peut-on affirmer avec certitude dans les dirigeants, l'entourage de Manchester United, que Mourinho va vraiment rester? Moi, ça me semble dingue qu'on le garde, mais bon.
On peut pas dire qui est...
Moi, ça me semble dingue. À moins qu'il élimine tous les joueurs qui sont contre lui, mais ça l'oblige à refaire un recrutement. Moi, après, on me ressort toujours les fameuses lignes. Même, regardez les titres qu'il a gagnés depuis qu'il est arrivé. Mais ouais,
on va dire qu'il est deuxième.
Eh ben, pas de problème. Continue
avec un total de points qui, en d'autres saisons, lui aurait permis d'être champion.
Voyons voir comment ça continuera. Alors, et jusqu'où ça va aller.
Ah, je suis d'accord avec toi, mais je pense que oui, effectivement, c'est ce qu'on va te dire.
Okay.
Alors, à part ça,
oui, quelques petites choses en vitesse.
Oui, alors attends, moi je voulais juste quand même qu'on cite le nom du gardien de West Brom. Bah, c'est Foster.
Qui a été très bon.
Ben Foster.
Il fait un arrêt incroyable.
Ben Foster, c'est un ancien. Il en fait pas. C'est un ancien grand espoir.
Il en fait pas un, il en fait
mais là, sur la tête de Lukaku, là. On vient de la revoir sur BFM Sport, elle est exceptionnelle, cette manche.
Il en fait pas qu'un, pendant le match. Ça devait être un gardien appelé à une bien plus grande carrière. Elle est pas mal, cette mais ça devait être une toute autre carrière qui était prévue pour lui.
Oui, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'il a pris sa retraite internationale, mais, au vu de ce qu'il fait pour West Brom dans une équipe qui est pourtant en grosse difficulté, il a vraiment lui absolument, mais rien à se reprocher, et je le mettrais largement dans mes trois devant Joe Hart si jamais je devais choisir les 23 de l'équipe d'Angleterre.
Alors, Philippe, le temps presse, donc il faut choisir. Donc, ce que je te propose, mais Liverpool, toute vitesse, on aura le temps d'en parler avec la Ligue des Champions.
Oui, voilà. Le fait que Liverpool ne fasse pas tourner,
on fait Arsenal et
faire la dynamique du succès. Arsenal battu à Newcastle, oui absolument, c'est extraordinaire, une statistique extraordinaire pour Arsenal dans l'année 2018. J'aime pas trop les statistiques calendaires d'ordinaire, mais celle-là est quand même parlante. C'est depuis le 1er janvier 2018 le pire bilan à l'extérieur des 92 clubs professionnels anglais de la Ligue.
Ouf, quand même.
0 point sur 15. Donc ouais, ça commence à être parlant quand même. Le signaler, c'est quand même assez extraordinaire. Ils se sont fait retourner comme une crêpe par Newcastle. Bon, c'est vrai qu'ils étaient arrivés à 6h du matin le vendredi en revenant de Moscou. C'est pas idéal pour préparer un match le dimanche midi. Mais malgré les circonstances atténuantes, c'est quand même assez catastrophique.
Qui va entraîner Arsenal l'année prochaine? On commence à en discuter ou pas?
Oui, tu sais qu'il y a un nom qui circule en ce moment et moi je serais absolument ravi si jamais... Enfin bon, je serais ravi pour lui. Non, c'est Rafa Benitez.
Ah oui, avec Newcastle au top. Ouais.
Et on en parle de plus en
plus. Mais il va aller où, Ancelotti? On a l'impression que son nom circule partout et nulle part.
Ben exactement. C'est-à-dire qu'il y a rien de. Pourquoi pas Manchester United?
À Chelsea, il va retourner à Chelsea.
Ah, on en a parlé. Chelsea comme étant de retour.
Il serait pas contre. Hein. Il a deux ans, il a du boulot qu'il attend en Chine, avec beaucoup d'argent, mais il a pas forcément envie d'y aller.
Qu'est-ce qu'il va aller faire en Chine?
Il a même pas envie de prendre la sélection.
Une énorme proposition de Chine maintenant.
Et mais il a pas déjà un max d'oseille de côté déjà?
Mais si.
Bon bah alors.
Mais oui, mais il est pas très très chaud pour y aller. Mais il a envie d'entraîner en Europe, donc il rêvait du PSG. Bon là c'est mal barré. Mais retourne en Angleterre.
Sa copine, sa copine adore Londres et
son épouse.
Excusez-moi.
Il a une maison à Londres. Il partage.
Très très intéressant qui tourne en Italie. Que c'est la Juve. Attention.
Si Allegri s'en allait à Chelsea par exemple.
Bon, on suivra ces
choses. J'ai déjà allé à la Juve, c'était pas super bien passé.
Ouais, mais
Philippe,
c'est vrai,
juste signaler Giroud la promotion. Giroud sauveur, bien évidemment, marquer ce doublé. Alors lui, franchement, chapeau bas, parce que il a une occasion de montrer quelque chose. Son club est mené 2-0, il rentre à l'heure de jeu. Morata a fait tout et n'importe quoi. Il est vraiment pas bien, Morata, du tout. Il a des problèmes.
C'est pas faute de l'avoir prévenu.
C'est les problèmes, c'est pas des problèmes de talent ou de tout ce qu'on voudra. Il y a autre chose avec Morata, on en reparlera.
Son entourage. Commençons par son entourage, par son père.
Et Giroud, quant à lui, rentre sur le terrain et il marque ses deux premiers buts. Le but pour revenir réduire l'écart et puis le but décisif de la victoire de Chelsea. Ce n'est pas rien pour un joueur qui continue de tourner à un but toutes les 100 minutes à peu près depuis le début de la saison, qui est hallucinant quand tu penses au problème qu'il a eu tout au long de la saison. Donc bravo Olivier Giroud. La promotion de Wolverhampton Wanderers, ça aussi on en reparlera plus en longueur parce que je pense que ça intéressera beaucoup Daniel, parce qu'en fait c'est George Mendes. C'est le club de George Mendes, propriétaire chinois multi milliardaire.
Alors je vous propose Mendes de faire un dossier Wolverhampton un peu plus tard parce que là le temps vraiment nous est compté. Il reste l'Espagne et l'Italie. On fait ça dans une seconde dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. On vous attend au 32-16 bien sûr, à tout de suite. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, les drôles de dames, David Lorto, Philippe Auclair, Fred Hermel et Simone Rovera. Sachez que Simone, c'est un petit jeu là, je crois, sur 10 minutes, va absolument parler du match de Première Ligue de ce soir. Je vous laisse chercher pourquoi, je vous laisse proposer sur le hashtag RMC Live.
Je voulais vous en parler, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
Eh bien écoute, on en touchera un mot juste avant la vie tranchée de Simone dans 10 minutes. Tout de suite, c'est l'Espagne. Jingle Fred Hermel, sponsorisé par...
Les jambons patanegras.
Le Barça, c'est le favori pour cette Ligue des Champions. Je vois pas comment la Roma ne pourrait pas être éliminée.
Oui, normalement.
Dès mercredi, en fait, voilà. Aujourd'hui, c'est un match de transition qui va être contrôlé par le Barça. S'il faut marquer deux buts pour se qualifier, ils marqueront deux buts. Alors, franchement. Oui, mais celui qui a fait ça, il s'est pas cassé, hein. J'ai quand même dit beaucoup plus de conneries et beaucoup plus drôle que ça, hein. Parce que moi, au moins qu'on prenne des conneries uniques, pas des conneries partagées par l'ensemble des gens qui aiment le football sur cette terre.
Par contre, je suis un peu déçu du sponsor des
Bah oui,
Patrick Patanegra, c'est une marque.
Bah ouais, c'est pas une marque. Oui, c'est une marque. Si, si, bien sûr.
Mais non, c'est pas une marque, Patanegra.
C'est un label. C'est un label de qualité.
Exactement. C'est un label. Ça veut dire que c'est des cochons noirs.
Mais oui, mais alors, ça peut être sponsorisé par l'usine à cochons.
Tu t'es raté, Daniel.
Il a réfléchi toute la vie de.
C'est venu comme ça, c'est parce que lui, je l'avais oublié. En plus, il avait dit Durex, donc c'est bon.
Mais non, Durex, je voulais une marque espagnole. Ça va, oh là là.
Mais
vous aviez qu'en trouver une, vous, si vous êtes si malin.
Mais Durexit, tu t'es proposé pour le faire, on te faisait confiance.
Mais j'ai pas réfléchi à Fred, j'ai oublié.
Alors, on a un autre jingle, Fred Hermel.
Moi, c'est facile, Durex. Tant que c'est XXL, moi, ça va. Plus c'est gros, plus ça passe, hein.
Voilà, ça c'est des histoires de...
Ah,
c'est
quelle élégance. Ouais, c'est...
Bon alors Fred, ouais,
mis bout à bout, Fred c'est élégant.
Fred, oui, tu en as marre.
Tu te rends compte de ce que je viens de dire.
Moi j'en ai marre.
Vas-y, Fred.
C'est pas possible.
Moi j'en ai marre que le football soit sérieux. J'en ai marre des entraîneurs sérieux. J'en ai marre des footballeurs sérieux. J'en ai marre des présidents de clubs sérieux. Je vous dis, j'en ai marre des journalistes sérieux. Enfin... de tous ceux qui se prennent au sérieux. C'est pas parce que tu te prends au sérieux dans le football que tu gagnes. Parce que moi, j'ai un bon exemple d'un club qui se prend pas au sérieux. Dirigé, enfin, emmené en tout cas, par un capitaine, un joueur fabuleux. Alors qui, lui, si vous plaignez de mes blagues, alors lui, c'est des blagues, mais mille fois plus lourdes que les miennes. Je vous parle du Betis Séville. Je vous parle de son capitaine, Joaquín Sánchez. Vous savez, Joaquín, hein, qui a été 52 fois international. Joaquín qui a 36 ans aujourd'hui, qui va prolonger son contrat, qui vient de prolonger son contrat de 2 ans. Et ce club, c'est la joie de vivre du football espagnol. Ils se la pètent pas et ils sont 5e. Ils viennent d'enchaîner 5 victoires de suite. Donc une victoire pas facile du tout à Gérone, 1-0, ce vendredi soir. Eh ben, ce Betis est aujourd'hui 5e. Devant l'ennemi. Le club un peu bourgeois, un peu le club de ceux qui se prennent au sérieux, le Séville FC. Eh ben, ce Betis, avec un budget de 87 millions, en plus, donc beaucoup d'argent a servi à grandir le stade, ils sont à une capacité de près de 61 000 aujourd'hui, le Benito Villamarín, eh ben, ils se marrent, ils rigolent, ils font des blagues, Joaquín, il danse le flamenco dans le vestiaire, etc. Et ils sont 5e, et ils vont retrouver l'Europe. Donc, c'est un avis court, sympathique sur le club le plus sympa, le capitaine le plus sympa, le plus drôle d'Espagne. Oui, on peut gagner au football, faire des choses magnifiques, bien jouer, marquer plein de buts en ne se prenant pas au sérieux. Nous avons un exemple dans la meilleure Liga du monde, c'est le Betis Séville. Le Real Betis Club Balompié.
Magnifique. Voilà, coup de projecteur sur le Betis. Mais en quoi il est rigolo, Joaquín?
Bah, il dit des blagues tout le temps. Mais c'est-à-dire que le mec, il sort en zone mix, il te raconte des blagues. Mais des blagues à la Hermène, mais encore plus lourdes, quoi. Mais au lieu de dire, non, mais c'est pas le mec qui te dit, l'important c'était les 3 points, je pense quand même que nous avons calculé les trucs. Le mec, alors oui, vous savez ce qu'il a fait, Joaquín? Il était invité à une émission de télé en décembre. Et en fait, il a quand même une ambition. Il a envie de, il a encore les 2 ans de carrière. Il a envie de devenir président du Betis, qui est une société anonyme objet sportif. Donc, il a des actions. Et il a acheté un gros paquet d'actions. Donc, il est en plus actionnaire important de ce club. Et son idée un jour, c'est de majoritaire et devenir le président du club. Et il raconte ça à la télé. Il dit, bon, mais quand ma femme a appris, ce que ça m'avait coûté, ben, pendant une semaine, j'ai dormi sur le sofa. Voilà, il raconte des trucs comme ça. Voilà.
Très bien.
C'est peut-être pour ça que les autres rigolent à ses blagues. Vu qu'il est actionnaire et bientôt qu'il est
dans le c'est pas assez drôle, en fait.
Bon, en tout cas, alors, moi, j'adore ce coup de projecteur. Beaucoup le Betis Séville, les derbies contre le Betis Séville, c'est magnifique.
Mais les mecs sont excessifs.
Mon petit Fred, ça montre quand même que tout est joué dans ta Liga et qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, hein.
Non, mais non, alors c'est ça qui m'énerve.
Bah, non, mais
alors,
c'est vrai.
Quand tu parles de Zidane, mais quand tu parles du Real ou du Barça, on te dit, tu parles du Real, du Barça, que de ça. Tu parles de Nacho, il se fout de ta gueule. Tu parles de Betis, il se fout de ta gueule. Voilà, mais c'est ça.
Nacho, c'était
il suffit d'avoir une réunion rédactionnelle et moi je m'adapterai. Mais non, mais moi simplement, je vous dis, je suis très heureux de parler du Betis. Et en plus, j'y avais pensé et j'ai reçu plein de messages aujourd'hui, Fred, de gens sur Twitter qui me réclamaient.
J'ai dit que j'étais très heureux que tu en parles et que c'était très bien. Mais il n'empêche quand même que tout est joué dans ton championnat. C'était quand même là où je voulais en venir.
Oui, le Barça va être champion, c'est vrai qu'on
Barça va être champion, on connaît les 4 en Ligue des Champions.
Voilà. On va aller vers, justement, dire un petit mot sur le Barça. Et là, j'ai un problème de conscience. Ça m'arrive pas souvent, mais là oui. Parce que comment démentir une information dont on parle beaucoup, pas en Espagne mais en France, notamment sur les réseaux sociaux, qui a été repris par des médias, sans parler de cette information qui est une invention pure et simple. Alors je vais dire, il n'y a pas eu d'incident entre Dembélé et Valverde, et encore moins d'insultes racistes de Valverde à l'encontre d'Mbélé. Il faudrait que là, en France, on essaye de pas reprendre des tweets qui circulent en anglais.
Je l'ai même pas vu, ça
non plus.
Bah voilà. Bah oui, mais sauf que, à partir du moment où j'ai plein de Twitter qui me demandent d'en parler,
ça veut dire
et que je reçois plein de messages. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des médias a priori qui dépendent de médias sérieux sur Internet, qui ont repris un truc mais complètement délirant et dont on ne parle pas en Espagne parce que c'est totalement faux. Donc voilà, je dément sans trop en parler parce que beaucoup d'auditeurs de l'After m'ont demandé de mon avis là-dessus. Donc je réponds ce soir parce que je suis là.
Mais alors là, mais je comprends ton cas de conscience parce que du coup tu fais la pub de ça.
Ben, c'est ça le problème. Vous avez échappé à d'auditeurs qui m'en parlent.
Donc là, du coup, là, on va voir le truc, tu vois.
Oui, mais c'est important de important que
les auditeurs me disent pas. Voilà, mais je parle de plusieurs, allez, une dizaine ou douzaine de gens. Et j'ai
est-ce
vu
que ça a été repris
médias...
par des médias, ça, ou c'est
ben, des médias
c'est
importants, enfin en tout cas des médias importants en France qui ont une rubrique sportive, quoi, voilà, et qui sur leur site, voilà, vous savez.
T'es étonné, Fred, vraiment. T'es étonné.
Ben non, mais c'est ben ouais. mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ben ouais, on va dire dommage, un petit mot quand même sur le Barça qui est un peu en dépression, mais qui a évité le.
Mais c'est pas les mêmes médias qui ont balancé que le PSG avait pas voulu d'escorte pour le Real et tout. C'est non, pas ce genre de truc là.
Parce que ça y a. Bon, on va pas en parler. Mais
non,
mais
parce que comme c'était complètement fantaisiste et absolument faux et débile.
Non, parce que c'était vrai.
Non, voilà. Bah non. La preuve, sinon on le saurait. Sinon, non, mais Fred, dis pas n'importe quoi, Fred. On le saurait. On le saurait. Ce serait prouvé et ce serait très grave et ça aurait même été attaquable. En fait, tu dis n'importe quoi là-dessus.
Ne t'engage pas sur un terrain.
Non, je m'engage où je veux. Tu ne donnes aucune voilà. leçon, et bah, mais tu ne racontes pas de bêtises, voilà. S'il te plaît.
Bah, non, mais alors, voilà. Ok, on arrête.
Non,
voilà.
Non, on n'arrête pas quand tu décides qu'on arrête, s'il te plaît.
Non, voilà. mais
parce que là, les informations là, à la con, là, totalement fantaisistes, quand oui, on les donne parce que ça touche son club, c'est une chose. Mais on ne ment pas. On ne ment pas, Fred, s'il te plaît.
Je fais confiance à mes collègues.
Oui, après, je peux faire confiance
à quel collègue? Est-ce que, plus calmement, à quel collègue?
Je fais confiance aux autorités françaises.
Mais c'est absolument faux. Si ça avait été vrai, je pense que ça aurait fait une affaire d'État.
Non mais attendez.
Arrêtez de dire n'importe quoi.
Je pense que quel que soit le nœud de votre désaccord, ça se règle pas ici de cette façon.
Non.
Il y a aucun désaccord. Il dit et je lui demande si ce sont les mêmes qui relaient ça, qui ont relayé l'énormité sur l'escorte. Qu'est-ce qu'une bêtise sans nom.
Bon, voilà. Et escorte policière, on précise que ça n'avait rien à voir avec.
Oui, pas d'escorte girl. Pas d'escorte girl.
Pas d'escorte girl. Pas d'escorte girl. C'est pas une honte.
Non, mais est-ce qu'on peut plus calmement être d'accord avec le fait qu'on
d'ailleurs, je pense qu'ils auraient insisté, ceux qui ont sorti d'infos.
On peut pas.
Je pense qu'ils seraient allés au fond du truc si c'était vrai, tu vois. Tellement c'est grave.
Arrête,
je pense.
Ne t'enfonce pas plus.
Franchement, s'il y a quelqu'un qui doit pas s'enfoncer.
Alors,
par
je vous propose de laisser le dernier mot à l'autre, tous les deux, comme ça on arrête la discussion. C'est excellent. Pierre,
c'est bien ça. Ouais. Est-ce qu'on peut plus calmement penser que chacun de son côté, parce que moi aussi, ce jour-là, j'ai eu effectivement quelqu'un au club qui m'a dit que c'était effectivement pas vrai. Mais est-ce qu'on peut penser plus calmement que Fred, de son côté, a peut-être des infos qu'il peut penser lui aussi.
Non, à un moment,
c'est sûr.
Je vais finir. À un moment, il y a une vérité.
Est-ce que je peux finir? Je t'ai laissé finir avec Fred. Laisse-moi finir.
Pas dire qu'il a des infos. Il y a une vérité.
Déjà, écoute ce que je te dis, Daniel. Les mots ont une importance. Est-ce qu'on peut penser calmement que Fred, de son côté, a des infos qu'il peut penser et objectivement vraies de son côté, et nous, des infos qui viennent d'autres personnes?
Non.
Objectivement, vrai aussi.
Bon, Je pense que tout le monde en aurait parlé.
Messieurs, stop. S'il vous plaît.
Et je pense que ce média qui est sur le club, et le média qui a le plus d'informations en France, je pense qu'on l'aurait su. Et non pas les amis de Fred Hermel. Merci.
Allez, on finit sur le coup de gueule de Zidane. Et Pierre, je te remercie pas. T'as relancé le truc. Je pensais que c'était bon. Je pensais que t'étais un ami dans l'affaire.
Et puis t'avais trouvé une super formule.
Je me suis fait avoir terriblement. Alors, Fred, un dernier mot et après on fait l'Italie.
Oui, le coup de gueule de Zidane qui avait commencé en espagnol et après je l'ai relancé en français, c'était samedi, et où il a été très très dur. Il faut voir une chose, c'est que Zidane donne son avis et qu'il a été profondément blessé qu'on puisse utiliser le mot vol pour le penalty de la Juve, tout simplement parce que voler, pour lui, on peut discuter sur le penalty tout ce qu'on veut, mais pour lui, employer le mot vol, ça veut dire c'est considéré que son joueur, que lui, ses joueurs, son équipe, en l'occurrence Lucas Vázquez, et que le club du Real n'est pas honnête, et ça, il peut pas l'accepter. Mais il faut placer ça aussi dans un contexte, c'est que le Real Madrid, qui pendant des années n'a pas réagi à ce genre d'attaque, a décidé de passer à la vitesse supérieure, et que le Real Madrid, toujours très mesuré dans ses réponses, va hausser le ton, parce que du côté du Real, du plus haut au plus bas, les gens en ont marre qu'on mette en cause tout le temps leur victoire, qu'il y ait tout le temps des choses et voilà, et que on parle d'un penalty mais qu'on ne parle pas par exemple du but disco annulé pour un hors-jeu inexistant par exemple. Et donc il va falloir s'attendre, si ces remises en cause de la validité des victoires du Real continuent, à des réactions de plus en plus dures de la part des responsables madrilènes à tous les niveaux.
Voilà. Ça serait bien qu'il y ait des réactions dures également de l'UEFA pour les propos absolument inqualifiables de Gigi Buffon sur Michael Oliver. Ça serait.
Ah oui. Ouais, alors attendez. Stop. Non, il faut qu'on arrête.
Non, okay. Mais là, je peux te dire que nous en Angleterre, on est
si jusqu'à là parce juste... que. Juste parce que vous êtes pris la tête sur l'histoire de l'escorte, donc je rappelle juste ce qui s'est passé.
Escorte
et j'aimerais qu'il n'y ait pas de relance. C'est donc effectivement lors de PSG Real, une info a circulé comme quoi le PSG souhaitait.
Non, pas une info. Voilà. Mais non, mais soit tu lis correctement, non.
Eh ben écoute, il y a une si il y a une info que toi tu considères comme une rumeur.
Est-ce que RMC a enquêté et a su oui ou non et a donné sa version.
Juste l'histoire, c'est l'histoire d'une escorte policière donc pour la délégation du Real lors de PSG Real. Le PSG aurait donc souhaité que les pouvoirs publics ne fournissent pas cette escorte policière.
Quelle aberration.
Et c'est donc l'info que tu déments et que Fred maintient avec ses infos.
C'est,
on arrête là.
L'information.
Jingle Simone Rovera, on donne le sponsor ou on est trop énervé là pour Simone Rovera. Je pense qu'on est trop énervé.
Buitoni.
On y va. Jingle Simone Rovera.
Kéline, que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite, et j'ai totale confiance à Giorgio Kéline dans le terrain et dehors le terrain.
Alors, juste, pourquoi tu voulais parler de West Ham Stoke, alors, en première ligue?
Parce que c'est le match plus important du week-end, c'est le match en sommet, c'est un match de 32 cadors du championnat anglais, c'est pour ça qu'il a été choisi. Les meilleurs arbitres anglais, c'est lui qui a eu l'honneur d'arbitrer aussi un Real Madrid Juve, non? C'est pas ça?
Il est bon, quoi.
C'est pas le match plus important de la saison, peut-être?
Quoi? Je vois pas le rapport, en fait.
Mais je sais pas si c'est si bon pour arbitrer un Real Madrid Juve. Je pense qu'il méritait tous les big matchs de la Première Ligue, non?
Ah, parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que les grands arbitres italiens font jamais des petits matchs en Italie. Ça arrive jamais.
Ça peut arriver, mais.
Oh, mais laissez-le! Est-ce que tu peux respecter les joueurs de Stoke et les joueurs de West Ham, s'il te plaît?
Mais laissez-le, il est grand, moi j'adore.
Des extraordinaires joueurs.
Voilà. Non mais on veut de l'émotion dans le foot, donc on veut de l'émotion.
Oui, mais
dans
ça serait beaucoup plus drôle
si
jamais.
Excuse-moi.
Moi je suis énervé parce que on parle de menaces de mort contre un arbitre.
Bah, évidemment.
On parle de menaces de viol et de violence vis-à-vis de son épouse. C'est inqualifiable ce qui s'est passé.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Et tout simplement, on peut accepter ou pas accepter le. De toute façon, il y avait péno, mais on va pas revenir là-dessus.
Mais
la façon dont ça continue cette affaire-là, Simonet, c'est inqualifiable.
Évidemment.
À chaud qu'on réagisse comme on veut. D'accord, mais pas qu'on continue comme ça.
Non, mais évidemment, les propos de Buffon sont condamnables, il n'y a pas de problème. Après, ça ne nous empêche pas aussi d'en rigoler avec Simonet ce soir.
Oui, mais je peux dire que la femme de Oliver, elle en rigole beaucoup.
Oui, d'accord, mais après, il y a tout le monde Il y a les menaces, les insultes, etc. Évidemment, c'est très grave.
Bien sûr
que c'est Simonet, qui cautionne pas tout ça et a envie de faire un bon mot ou de sourire avec ça, on va pas s'empêcher non plus de faire ça.
Si tu peux, voilà. Absolument.
C'est tout.
Surtout qu'il a, en général, il est pas très drôle, Simonet.
Ouais, mais là, il est
très drôle. la seule bonne blague qu'il a faite depuis un mois, quoi.
Bon, Simonet, ton avis tranché concerne Donnarumma.
Oui, ça concerne celui qui je continue à considérer comme les prodiges du football italien concernant le poste de gardien de but et que je considère qui continue à grandir bien, même si sa saison n'a pas été totalement parfaite. Il a aussi eu de coupes de moins bien, mais je trouve que c'est normal dans la progression d'un garçon qui, faut rappeler qu'il a 19 ans, qui continue à sortir des matchs plutôt intéressants, voire des arrêts décisifs. Et je trouve que l'arrêt qu'il a fait ce week-end à la dernière minute de Milan-Naples, qui était très important dans le contexte de la saison, surtout parce que pratiquement a donné les titres de la saison à la Juve, mais bon, c'est surtout parce qu'il a ramené un point aussi important pour Milan. Je trouve qu'il est un gardien qui est en train quand même de progresser, qui est en train de s'améliorer dans certains domaines. Il est toujours très réactif sur la ligne de but, il est très costaud, il est très fort, je trouve, à niveau mental, parce que oui, il fait des erreurs, oui, il est au centre de mille polémiques, mais il arrive toujours à trouver la façon de s'en sortir, de s'en sortir bien et s'en sortir mieux. C'est un joueur qui a progressé énormément dans les jeux au pied. Pour vous dire, ce week-end après le match, c'est pas son arrêt extraordinaire sur Milik, sur une frappe où Milik était à 4 mètres de la ligne de but et lui, il la sort avec vraiment un geste technique extraordinaire. Mais Gennaro Gattuso l'a félicité pour la façon dont il a participé au jeu de son équipe. Il a fait souvent relancer l'action avec des passes face à un adversaire qui généralement vient presser haut et donc a aidé énormément Milan à sortir du pressing du Naples. Et surtout, c'était pas un match normal, on peut dire, celui pour lui. Déjà, c'est un match qui l'a fait rentrer dans l'histoire. Quelle est l'histoire? Bah, lui est devenu les plus jeunes joueurs de l'histoire du football italien à arriver à 100 matchs en Serie A. Et quand je dis les plus jeunes, je dis devant un certain Gianni Rivera, devant un certain Silvio Piola, qui ça veut dire quelque chose pour ceux qui connaissent le foot italien, c'est Gianni Rivera, c'était les Golden Boy du foot italien, c'est-à-dire un ballon d'or, un joueur extraordinaire, Silvio Piola, les joueurs qui marquaient plus de buts. On parle des champions extraordinaires avant la guerre, après la guerre. Il est arrivé à 100 matchs en Serie A avec 2 ans d'avance sur une certaine Gigi Buffon, qui arrivait à cette chiffre à 21 ans. Là, on part toujours d'un gardien de 19 ans, qui continue à être titulaire à Milan, qui est un joueur très important du Milan, qui a déjà débuté en sélection, qui est l'avenir de la sélection, qui a été déjà titulaire en sélection. Il y a une liste des records qu'a battu Gigi Donnarumma, et tout ça, pas seulement parce qu'il a un agent influent, pas seulement parce qu'il se trouve dans un club qui, oui, vit des saisons moins bonnes en rapport à ceux qui sont du passé, mais parce que c'est un grand joueur. Et je trouve que quand cet été, il va partir de Milan, parce que Milan n'a pas une situation financière très bonne, et donc c'est les joueurs choisis pour être sacrifiés, et c'est pas un hasard que Milan a déjà pris Pepe Reina comme gardien pour la saison prochaine, je trouve qu'il est prêt pour faire les grands sauts, pour arriver dans une club de l'élite, un club qui lutte pour la Ligue des Champions, qui veut faire un grand investissement sur l'avenir, et sur un avenir sûr. Parce qu'avec Donnarumma, tu peux avoir un joueur qui reste 20 ans au top de son niveau. Et donc, mon avis tranché, que c'est n'importe quel club de l'élite, les 3, 4, 5 gros clubs européens, vont chercher un gardien. Gigi Donnarumma, c'est sûrement la meilleure affaire, n'importe de qualité, de prix et d'avenir.
Mais il a un grand handicap.
Il coûterait combien?
Son agent. Son agent. Alors, qui ne fait pas de bien du tout à ses joueurs.
Sur son agent, si son agent n'essaie même pas choisir les clubs ou des clubs plutôt amis que d'autres.
Les joueurs qui sont avec lui ont...
Il faudrait faire un bilan peut-être.
Ont toujours des problèmes. Il y a toujours des histoires un peu curieuses.
Moi, quand j'ai pensé à cet avis tranché, j'ai souhaité cet après-midi qu'on ne tombe pas vraiment à parler de son agent, parce que c'est vrai que son agent souvent est considéré comme celui qui fait plus de mal que de bien à ses joueurs. Après, sont ses joueurs.
Qu'est-ce
les
t'en
joueurs
penses, toi?
Qui choisissent ses agents? Je trouve que c'est un joueur. Un joueur est libre de se libérer d'un agent s'il veut. Oui. Et il est libre de ne pas aller avec son agent, cet agent.
Oui,
il y a des joueurs très importants au PSG, à la Juve, au Milan, qui ont choisi d'aller avec cet agent, ont choisi. Les personnes obligées, Blaise Matuidi a signé avec Raiola, personne obligé Marco Verratti a signé avec Raiola, personne obligé, si je ne me trompe pas, même Raiola être suivi par Raiola, Donnarumma, Bonaventura, dans les passés c'était Maxwell, Nedved, Ibrahimovic encore, tout l'ont choisi, c'est-à-dire qu'eux sont satisfaits. Donc pour nous, pour les observateurs, on voit souvent les côtés négatifs. Si les joueurs continuent à les choisir, c'est des joueurs importants, peut-être qu'il fait bien ce travail pour eux. Donc voilà, c'est vrai que moi, pour faire un exemple, je trouve que Donnarumma a besoin d'être dans un club solide, stable. Lui, il sort d'une période cauchemardesque. Les insultes de ses supporters, des supporters adverses, les faux billets pendant l'Euro, les surnoms Donnarumma. Il a vécu des choses incroyables pour un gamin de 19 ans.
Moi, j'ai une question pour toi. En Italie, tout le monde est unanime pour dire que ce sera un crack. Il n'y a pas des bémols sur le poste de gardien, parce que par exemple, moi, je considère que on peut pas savoir si un gardien sera un grand gardien à 19 ans. C'est un poste qui nécessite de la maturité, une dimension mentale très importante, et des bouffons, il n'y en a pas 50.
Je suis d'accord.
Donc il y a quand même toujours un doute.
Ça fait pas l'unanimité, mais je trouve qu'il y a aussi une cote en baisse pour lui suite aux événements de cet été, suite au fait qu'il a un agent qui ne fait pas du tout l'unanimité en Italie. Je pense qu'avec lui, on va plus sur le personnage que sur le footballeur. Moi, je vois un joueur qui progresse. Je vois un joueur... Moi, je me rappelle des matchs des Buffon à 20 ans, et des matchs des Buffon avec les espoirs, des matchs des Buffon au Parme, où il les faisait des boulettes, mais catastrophiques.
Même lui a progressé.
Moi, je me rappelle un match espoir Angleterre-Italie, où Buffon fait une cagade énorme.
Il te reste une minute, donc je te coupe. Et il faut absolument qu'on parle de Cheikh Diabaté.
Alors, je crois, et pas la sortie absolument lamentable de Mehdi Benatia à la télé, là.
Mais Benatia qui a utilisé
un... Ah non, mais là, c'est un peu long à raconter, il le racontera dans la semaine.
Dommage.
Mais Cheikh Diabaté se met l'Italie dans sa poche, donc faut le raconter.
Ah oui, c'est drôle.
Alors, je vais parler de ces joueurs qui a fait 6 matchs en Serie A, 10 tirs cadrés, 284 minutes, 7 buts, 3 triplés consécutifs, trois triplés consécutifs, une chose qui n'arrivait pas depuis 2001 qu'un joueur fait trois triplés, trois doublés consécutifs.
Ouais, j'allais dire trois triplés,
je me fais prendre dans l'excitation pour ces joueurs.
C'est l'effet diabolique, ça.
Et qui, aujourd'hui, avec ses buts, a fait gagner 7 points au Benevento. C'est pas beaucoup, mais hier, Benevento a gagné pour la première fois un point à l'extérieur de sa saison, et c'est grâce à un doublé de Chirac Diabaté. Et j'imagine qu'est-ce que ça pouvait être la saison de Benevento si Diabaté n'arrivait pas le 21 janvier.
Mais bien sûr.
Mais les premières août, aujourd'hui, Benevento
titre,
l'Utérêt pour la Ligue des Champions.
Je vous dis vive Chirac Diabaté, qui marque les clubs où il passe, c'est vrai. Il a toujours une cote de popularité énorme.
En plus, les gens l'aiment.
Il est attachant, Chirac Diabaté, et je peux absolument pas dire chouchou quand je dis tout ça.
Ah oui,
chouchou
oui,
pas.
Oui,
chouchou
ah non mais moi je suis pas, pas ironique, je suis d'accord avec Jean-Luc. Ce gars-là transmet une forme d'affect. Oui,
c'est
un chouette mec, il est super vraiment.
On reste pas sur mon point. T'as une seconde.
Oui. Tous les joueurs. Oh, c'est les joueurs qui demandent. À qui demander plus de selfies après les entraînements parce qu'ils adoraient
presque. Ben voilà. Merci Simone, merci les drôles de dames, merci Pierre, merci Daniel. À demain après la Coupe de France. Bonne nuit à tous.
Ciao à tous.